Merci d'écouter RFI. 13h en temps universel. Il est 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi.
Sur le continent américain, durant la prochaine demi-heure, et on va parler des violences des gangs en Haïti qui ont poussé l'année dernière plus d'un million de personnes à fuir leur maison. C'est 3 fois plus que l'année précédente. Et nous serons en ligne dans quelques minutes avec notre confrère Godson Pierre pour en parler, directeur de l'agence Alter Press. Reportage à suivre à New York où les autorités commencent à démanteler le système d'accueil de migrants. La question est toujours extrêmement sensible et les craintes très grandes à quelques jours du retour au pouvoir de Donald Trump. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de l'évolution institutionnelle du département de la Guadeloupe.
Oui, les travaux se poursuivent. 3 groupes ont été mis en place hier pour réfléchir notamment sur la fusion entre conseil régional et conseil départemental. Nous en reparlerons tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le président Biden veut arracher une trêve à Gaza avant son départ de la Maison-Blanche lundi prochain.
Les dernières tractations à Doha portent sur l'échange possible entre otages israéliens et prisonniers palestiniens, ainsi que sur l'aide humanitaire à Gaza. Après 15 mois de guerre, toutes les parties affirment que l'accord est imminent entre Israël et le Hamas à quelques jours du retour de Donald Trump. Le gouvernement israélien met la pression sur le mouvement palestinien à l'image de la vice-ministre des Affaires étrangères, Sharon Haskel. On l'écoute.
Trump a déclaré que s'il ne libérerait pas les otages, l'enfer se déchaînerait. C'est une déclaration très forte venant du président élu des États-Unis. Et je pense que cet avertissement, sachant que le président Trump a toujours tenu ses lignes rouges ou ses déclarations, a créé suffisamment de pression sur les parties pour qu'elles avancent réellement et fassent avancer les négociations.
En Europe aussi, la perspective du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est dans toutes les têtes. Les dirigeants du continent multiplient les contacts avec les autorités ukrainiennes face à la crainte d'un désengagement américain de la prochaine administration. Le ministre allemand de la Défense est à Kiev aujourd'hui. Les présidents Zelensky et Macron se sont parlé hier soir pour évoquer la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine face à la Russie.
Et dans ce contexte, l'OTAN se mobilise contre les sabotages en mer Baltique.
Les pays riverains sont réunis à Helsinki à ce propos et les dirigeants européens soupçonnent fortement la Russie d'en être responsable. Plusieurs câbles sous-marins de télécommunications et d'alimentation électrique ont été endommagés ces derniers mois. Une guerre hybride qui nécessite des moyens. Les contrôles de l'Alliance Atlantique vont se multiplier. Les explications de notre correspondante régionale Marielle Vitureau.
Le dernier incident a eu lieu le jour de Noël entre la Finlande et l'Estonie. Un câble électrique a été sectionné. Le navire responsable, qui naviguait sous pavillon des îles Cook, a été arraisonné par la Finlande et les 8 membres d'équipage ont interdiction de quitter le territoire le temps de l'enquête. Les patrouilles de l'OTAN, qui ont commencé il y a 2 ans pour sécuriser la mer Baltique, vont s'intensifier, a annoncé le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. C'est la mission Sentinelle Baltique.
Cela inclura toute une série de moyens, notamment des frégates et des avions de patrouille maritime pour renforcer notre vigilance dans la Baltique. Nous avons aussi convenu de lancer une initiative visant à déployer de nouvelles technologies, notamment une petite flotte de drones navals pour renforcer la surveillance et la dissuasion.
En matière de protection, les riverains doivent aussi y mettre du leur, comme diversifier les sources d'approvisionnement en électricité. Plusieurs experts estoniens ont noté que Tallinn avait des efforts à faire. Il faut aussi qu'ils investissent plus dans leur propre sécurité. En Lituanie, un accord a été passé entre le ministère de l'Intérieur et la société en charge des réseaux électriques. Marielle Vitureau, Vilnius, RFI.
En France, c'est peu dire que l'exercice est périlleux. François Bayrou montera à la tribune de l'Assemblée dans 1 heure pour sa déclaration de politique générale avec un objectif, éviter la censure. Chaque mot sera scruté. Le nouveau Premier ministre français parlera-t-il de suspension, de gel ou de pause au sujet des retraites? Un compromis est possible pour le Parti socialiste. Les discussions se sont poursuivies toute la nuit dernière. La gauche demande toujours la suspension de la réforme.
À Los Angeles, sur le front des incendies, les conditions météo sont scrutées avec inquiétude.
Le retour de vents chauds et secs pourrait compliquer la tâche des milliers de pompiers mobilisés. Pas question dans ces conditions pour les dizaines de milliers d'évacués de rentrer chez eux. Pas avant jeudi, en tout cas, selon les autorités. Certains ont tout perdu. Des quartiers entiers dans les environs de Los Angeles sont détruits. Des milliers de personnes qui rejoignent soudainement un marché de l'immobilier déjà saturé. Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour.
La situation est propice à l'explosion des prix et les autorités peinent à l'endiguer.
Oui, en quelques jours, les flammes ont détruit plus de 12 000 bâtiments et maisons à ce stade. Un chiffre qui représente, tenez-vous bien, plus du tiers de tous les logements construits dans le comté de Los Angeles en 2024. C'est considérable, surtout quand on sait que la Cité des Anges était déjà, avant ce drame, la ville la plus surpeuplée des États-Unis. Comme l'explique cet agent immobilier à la chaîne NBC News, les prix de location ont donc logiquement, mais malheureusement, explosé ces derniers jours.
Par cupidité, certains propriétaires ont considérablement gonflé leurs prix. Et puis, on assiste à une guerre des enchères.
Des familles désespérées, prêtes à payer n'importe quel prix pour avoir un toit sur la tête, aux dépens, bien sûr, des déplacés moins fortunés. Il y en a aussi. Il existe pourtant une loi en Californie qui interdit l'augmentation abusive des prix lorsque l'état d'urgence est déclaré, comme l'a rappelé en conférence de presse la procureure de la ville de Los Angeles.
Personne, et je dis bien personne, ne peut augmenter les prix des commodités suivantes. L'immobilier, l'hôtellerie, l'eau, la nourriture, les vêtements et la santé. Personne ne peut augmenter les prix de ces biens et services de première nécessité de plus de 10% sans violer la loi.
L'état d'urgence décrété pour au moins un an, mais il faudra sans doute beaucoup, beaucoup plus de temps, Karine, pour résorber la crise du logement qui s'annonce.
Nathanaël Vitran du service éco d'RFI.
Et on part à présent au Sable d'Olonne pour la mythique remontée du Chenal.
Des milliers de spectateurs sont réunis pour acclamer le vainqueur du Vendée Globe. Après son tour du monde, Charlie Dalin est en train de rejoindre le port. Il a franchi la ligne d'arrivée au soleil levant après être resté seul en mer. 64 jours, 19h22. Thomas de Saint-Léger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aux premières loges, alors racontez-nous l'ambiance.
Ambiance évidemment extraordinaire ici dans le chenal des Sables d'Olonne que remonte Charlie Dalin à bord de son bateau. Énormément de monde massé des deux côtés de ce couloir en quelque sorte qui emmène jusqu'au port des Sables d'Olonne. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, les cornes de brume que vous entendez sans doute derrière moi. Et Charlie Dalin qui vient, comme le veut la tradition, de craquer des fumigènes et de saluer la foule. Il reprend contact avec la terre, avec le monde des terriens. Ça doit lui faire bizarre en même temps, sûrement chaud au cœur, Charlie Dalin qui a passé près de 65 jours tout seul en mer pour remporter ce Vendée Globe.
Thomas de Saint-Léger, en direct des Sables d'Olonne. La remise du trophée est prévue dans une heure. Johan Richaume, en deuxième position, est attendu ce soir dans le port français. 33 marins sont encore en course. Et puis, autre exploit, enfin, retenez son nom, Karen Kilesseux. Elle a 21 ans et c'est la plus jeune personne du monde à atteindre le pôle sud à ski, seule et sans assistance. Karen Kilesseux est norvégienne et elle a parcouru plus de 1000 km sur le continent antarctique, 53 jours d'effort pour elle par des températures de moins 25 degrés. Voilà, c'est sur cette info qu'on referme ce journal, Anne.
Merci Karine Bellicha. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain et avant de prendre la direction des États-Unis, on va se rendre en Haïti.
RFI Midi, Cap Haïtien. 100.5 FM.
Haïti toujours secoué, accablé par la violence des gangs qui poussent chaque jour toujours plus de personnes à la rue. Nous sommes en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Et à la une aujourd'hui, ce chiffre vertigineux, plus d'un million de personnes déplacées en Haïti l'année dernière. On a pu faire entendre leur voix cette année sur cette antenne, leur quotidien. Les Nations Unies donnent aujourd'hui l'ampleur de ces drames, donc plus d'un million de personnes obligées de quitter leur maison en 2024 à cause des groupes criminels.
Oui, les données précises, 1 million 41 000 personnes déplacées. Plus de la moitié sont des enfants, à mettre évidemment en rapport avec la dernière estimation de la population de la capitale, autour de 3 millions d'habitants. Autre rappel à faire, le nombre des déplacés du terrible séisme de 2010, dont le 12 janvier vient de marquer le 15e anniversaire, s'élevait à 1,5 million. L'Organisation internationale pour les migrations juge vraiment inquiétant le seuil de 1 million de personnes déplacées franchies dans la crise multidimensionnelle haïtienne dominée par la violence des gangs qui occupent 85% de la capitale.
La violence qui se poursuit et la crise politique aussi, puisqu'on peut lire sur Alter Presse aujourd'hui l'indignation politique après que plusieurs mouvements ont fait référence dans un document adressé à l'organisation régionale CARICOM, référence à la coalition criminelle Vivre Ensemble.
Oui, l'affaire est que trois regroupements et formations politiques ayant désigné des représentants au Conseil présidentiel de transition ont signifié dans un document à la CARICOM que plusieurs forces politiques et de la société civile adhéreraient à l'option de la Cour de cassation pour remplacer l'actuel Conseil présidentiel de transition. Et parmi ces forces, la coalition de gangs Vive Ensemble est mentionnée. Le document est paraphé par les regroupements collectifs 30 janvier, accord du 21 décembre et le parti aidé.
Et ça, ça ne passe pas du tout au sein du Conseil présidentiel de transition.
Ouais, Leslie Voltaire, président du CPT, y voit un acte grave qui menace la République d'Haïti, une décision qui trahit la mémoire des milliers de victimes des actes criminels, ce qui porte atteinte à la souveraineté d'Haïti, souligne Voltaire. En agissant ainsi, ces partis politiques se sont écartés des principes républicains. Ils devront en répondre devant la justice et nos concitoyennes et citoyens. C'est ce qu'affirme Voltaire, tout en appelant également les forces vives de la nation à soutenir les efforts du Conseil présidentiel de transition face à ces dérives.
Et puis Alter Presse revient aussi sur les violences d'hier dans la périphérie sud de Port-au-Prince. Violences qui ont paralysé tous les transports publics pendant plusieurs heures.
Des affrontements entre des agents de la police nationale et des bandits armés à l'entrée sud de la capitale. Les chauffeurs des véhicules de transport public en provenance de la commune de Carrefour ont été contraints de rebrousser chemin à Martissant, une zone contrôlée depuis juin 2021 par les gangs armés.
Merci Godson Pierre. Tous ces sujets dont on vient de parler sont à lire sur le site de votre agence alterpresse.org.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on va continuer à lire la presse avec vous, Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour.
Aux États-Unis pour commencer avec ce baroud d'honneur de Jack Smith, procureur spécial chargé de plusieurs enquêtes sur Donald Trump. Il vient de démissionner, mais avant de renoncer, il a rendu public un dernier rapport explosif.
En deux mots, si Trump n'avait pas été réélu, il était bon pour une condamnation. Après plus de 250 entretiens menés par les services d'enquête et des dizaines de témoignages indiscutables, et à moins d'une semaine de sa prise de fonction, Jack Smith assomme le futur patron de la Maison-Blanche au cœur, selon lui, d'une entreprise criminelle visant à réfuter le résultat des élections pour garder le pouvoir.
Là, on parle du 6 janvier 2021.
Oui, l'attaque du Capitole par les partisans MAGA, l'ahurissant envahissement du siège de la démocratie américaine, les scènes d'une violence inouïe entre policiers et manifestants qui, d'après ce rapport, pensaient tous agir, si ce n'est sur ordre de Donald Trump, au moins à son initiative. Et au-delà de cet épisode, on parle de toutes les entraves à l'état de droit, les manigances de Donald Trump visant à convaincre certains membres du Congrès qu'il avait gagné la présidentielle de 2020, ses coups de pression sur les fonctionnaires électoraux dans les états clés, comment il a dénoncé des fraudes qui n'ont jamais existé, comment il s'en est pris à Mike Pence, son propre vice-président, afin que ce même Mike Pence obtienne une révision imaginaire des résultats, comment Trump a menti à ses électeurs alors qu'il savait bien qu'il avait perdu ce scrutin à la régulière.
Plus de 2 ans de travail de la justice américaine pour parvenir à ses conclusions. Et tout ça pour rien.
Et oui, un effort colossal qui s'est heurté à un mur. D'abord, le camp Trump s'est lancé dans une guérilla judiciaire contre Jack Smith et ses équipes. S'en est pris publiquement aux témoins, aux tribunaux, aux fonctionnaires, à tous ceux qui osaient parler aux enquêteurs. Donald Trump a tout fait pour décrédibiliser l'accusation qui a tenu bon pendant plus de 2 ans jusqu'à l'élection de novembre. Et là, le bureau du procureur spécial s'est arrêté net puisque la politique du ministère de la Justice américain a toujours été la même. On ne poursuit pas un président en exercice. Mais Jack Smith prend bien soin de préciser dans ce rapport que ça n'enlève rien à la gravité des infractions commises par Donald Trump.
Et comme toujours, réaction immédiate et furieuse du principal intéressé.
Ouais, ça ne change pas. Les avocats de Donald Trump, d'abord, ont tout fait pour que ce rapport ne soit pas publié maintenant, avant le 20 janvier, hein, le jour de son investiture. Ils ont raté leur coup, mais lui, Donald Trump, s'est fait un plaisir d'y revenir au milieu de la nuit, vers 2h du matin, heure américaine, sur les réseaux sociaux, et toujours sur le même thème, je cite, « Jack, écrit à Donald Trump, est un procureur débile qui n'a pas été foutu de boucler son dossier avant cette élection que j'ai gagnée triomphalement. Les électeurs ont parlé. »
Voilà, élection gagnée par Donald Trump, qui retrouvera le pouvoir lundi prochain. Nous sommes à 6 jours de l'investiture, et la question migratoire est dans tous les esprits. Chez les immigrés, bien sûr, qui craignent de voir le nouveau président organiser, comme il l'a promis, la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis, mais aussi dans plusieurs grandes villes, comme New York, où des milliers de personnes ont été envoyées par les États du Sud, et où la question est particulièrement sensible, au point que le maire, pourtant démocrate, a dit un temps que l'afflux de migrants allait détruire New York. Aujourd'hui, le ton d'Eric Adams est plus mesuré, plus optimiste. Les immigrés sont moins nombreux et la ville a décidé de fermer progressivement les abris mis à leur disposition, de démanteler petit à petit tout son système d'hébergement. C'est notre dossier du jour. Il est signé de notre envoyé spécial, Eric Sanson.
13 abris doivent être fermés d'ici le mois de juin à New York, à commencer dès demain, mercredi, par celui de l'ancien aérodrome de Floyd Bennett à Brooklyn. Des dizaines de milliers de migrants se sont entassés dans des tentes et des hangars plus adaptés aux avions qu'aux personnes. Samedi dernier, le maire de la ville, Eric Adams, a visité le site. Il a confirmé en conférence de presse que la pression migratoire diminuait.
Plus de 78% des migrants sont sortis du système. On ne vient pas aux États-Unis pour vivre et élever ses enfants dans des abris.
Envoyé en bus et en avion depuis les États républicains de la frontière sud des États-Unis, notamment le Texas, plus de 210 000 migrants irréguliers sont passés par le système d'abris que la mairie de New York a dû organiser en catastrophe à partir de 2022. Un séjour qui commence généralement à Manhattan, dans le lobby de l'hôtel Roosevelt. Cet hôtel de luxe à $800 la nuit a été fermé durant la pandémie, puis réquisitionné par la mairie. Les migrants sont fichés et leur santé vérifiée. Un gros travail, selon Manuel Castro, adjoint de la mairie de New York aux affaires migratoires.
La réalité, c'est que les gens arrivent dans des conditions difficiles. Leur santé est fragile. Ils ont beaucoup marché, vécu des choses difficiles et on leur offre ici l'attention qu'ils auraient dû recevoir à la frontière, je crois, mais qu'ils ne reçoivent pas. On les aide du mieux possible, que ce soit pour les urgences médicales ou les problèmes de santé mentale.
Au nord de Manhattan, un camp gigantesque a été installé sur l'île Randall. Il devrait être fermé en février. La mairie y a installé des tentes, cantines, douches, toilettes, générateurs, où les migrants comme Melissa et Félix Palma s'adaptent comme ils peuvent.
Ici, à cet endroit, ça a été fatal pour moi. Très dur. Je n'ai pas l'habitude de la nourriture locale.
Cela fait environ 15 jours que je suis arrivé dans le camp. Le plus difficile, c'est les papiers, la bureaucratie, ça prend du temps. Mais bon, on nous traite bien, il faut juste attendre.
Un effort financier et humain considérable pour la mairie, comme le rappelle Molly Schiffer, qui conseille le maire depuis le premier jour de la crise migratoire.
Nous avons ouvert 216 sites pour accueillir les migrants et on a multiplié par 3 notre système d'abri pour faire face à l'augmentation rapide du nombre de migrants. Chaque semaine, nous nous occupons de 1 000 à 5 000 personnes. On cherche vraiment à savoir si la ville de New York, c'est l'endroit où ils veulent rester. Un migrant sur 4 franchissant la porte de l'hôtel Roosevelt ne revient pas le lendemain parce qu'en fait, sa destination finale était un autre état ou une autre ville, là où ils ont de la famille. Ils sont à New York parce que les bus du Texas les ont laissés là.
Et pour cela, un service spécial a été installé dans chacun des camps, comme l'explique Molly Schaeffer dans le brouhaha du camp de l'île Randall.
Nous avons un bureau de reconnexion. Ça nous permet de les aider à contacter leur famille. On leur achète des billets, on les aide à rejoindre leurs amis, leur famille. Si rester à New York n'est pas pertinent pour eux.
Pour limiter la pression migratoire, New York a limité le temps de séjour dans les camps de 30 à 60 jours. En juin dernier, un décret exécutif du président Biden a renforcé les contrôles à la frontière, diminuant le nombre de passages de migrants irréguliers. Pour le maire de la ville, Il n'est désormais plus question d'ouvrir des refuges, mais bien de les fermer. Cela devrait faire baisser la tension sociale entre habitants et migrants, et parfois même avec des migrants installés depuis plus longtemps aux États-Unis, comme le chauffeur de taxi égyptien Ali.
Il n'y a plus de rêve américain. Regardez tous les migrants arrivés ces mois derniers. Ils sont logés à l'hôtel. Leurs enfants vont à l'école gratuitement. Moi, je suis un migrant, mais je bosse. Depuis un an et demi, tous les migrants arrivent du Mexique, d'Amérique latine ou d'Afrique. Ils ne veulent pas bosser.
Un discours qui s'entend souvent à New York, même si le porte-parole de la mairie, Fabien Lévy, souhaite dédramatiser les poussées de xénophobie.
Comme on dit ici, mettez 3 millions de personnes ensemble et vous aurez 35 millions d'opinions différentes. La diversité est normale à New York, mais tout le monde sait que notre ville a été construite par les immigrants. La statue de la liberté le prouve, notre ville est grande pour cela. Il faut juste leur donner les moyens d'accéder au rêve américain.
Éric Sanson, New York, RFI.
RFI Midi, Anne Contner.
Il y a de plus en plus de vent à Los Angeles. C'était une très mauvaise nouvelle pour les pompiers qui luttent contre les incendies. Les services météo ont émis leur niveau d'alerte le plus grave avant ce qui s'annonce comme une véritable tempête dans les prochaines heures. Et hier, les secours ont passé la journée à délimiter des lignes de confinement dans plusieurs quartiers au cas où les feux reprennent avec encore plus de force. Bref, c'est une mobilisation maximale à Los Angeles, comme l'a indiqué hier la maire de la ville, Karen Bass.
Comme nous l'avons dit, le service météorologique national prévoit des vents proches de la force d'un ouragan et nous nous préparons donc à faire face à l'urgence. Ma priorité absolue est celle de tous les autres et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les vies. À l'approche de ces vents, les pompiers de la ville de Los Angeles, ceux de tout le comté, de l'État, du pays et même de l'étranger sont dans une position proactive et stratégique pour sauver des vies. Les sources de lutte contre l'incendie sont positionnées dans des lieux d'attente stratégiques. Le département de l'eau et de l'électricité déploie des camions-citernes pour augmenter l'approvisionnement en eau des pompiers. Les centres d'opérations d'urgence restent activés au plus haut niveau afin de coordonner rapidement les interventions d'urgence.
La ville de Los Angeles complètement transformée par ces incendies. Des quartiers entiers sont réduits en cendres. La célèbre plage de Malibu est aujourd'hui le camp de base des milliers de pompiers qui sont mobilisés. Le gouverneur démocrate de Californie a proposé hier un plan de 2,5 milliards de dollars pour faire face à ces incendies catastrophiques. 1 milliard pour l'urgence et le Los Angeles Times nous apprend que 1 milliard et demi serait censé provenir de fonds publics pour se préparer aux menaces de ce type liées au dérèglement climatique. Dans ce contexte, il y a quand même un semblant de normalité. La NBA a repris. Les Lakers ont accueilli hier les Spurs pour le premier match de basket, le premier événement même organisé depuis le début des incendies. Loïc Piala.
Ed dépose quelques brosses à dents et du dentifrice dans un grand panier jaune, la couleur des Los Angeles Lakers. Chaque spectateur a reçu un mail l'invitant à faire un don avant le match.
C'est juste quelque chose pour aider. Je ne peux pas être pompier, mais au moins je peux contribuer un peu pour ces gens, même si je ne les connais pas.
Les incendies ont poussé la NBA à reporter la rencontre de samedi. Celle de lundi a été maintenue. Une bonne décision, estime Soren.
Les affaires doivent continuer de tourner. C'est comme ce qu'on a vu après les incendies à Hawaï. Les gens ont arrêté d'y aller et au final, les habitants d'Hawaï ont dit qu'ils avaient besoin que les touristes reviennent et dépensent de l'argent pour que l'économie tourne.
Les Lakers ont dédié la rencontre au premier secours. À l'échauffement, chaque joueur portait un t-shirt en leur honneur. JJ Redick, l'entraîneur de Los Angeles, a perdu son logement dans le Palisades Fire. Mais il a voulu que son équipe rejoue vite pour la vie.
C'est notre métier de donner de la force, de l'espoir et de l'envie. Le sport, c'est beaucoup de choses. Il peut offrir de l'évasion, de la distraction. Et ce soir, espérons qu'il peut offrir de l'espoir.
Les Rams, l'équipe de football américain de Los Angeles, ont quant à eux préféré délocaliser leur match dans l'Arizona. Loïc Piala, Los Angeles RF.
Un dernier mot, Vincent Souriau, à propos de ces incendies et des Jeux Olympiques de 2028.
Et oui, puisqu'on parle de sport, après Paris 2024, c'est Los Angeles 2028 qui est prévu dans 4 ans. Jusqu'ici, même si certains sont passés tout près, aucun des 80 sites retenus pour accueillir les compétitions olympiques n'ont directement souffert des incendies. Mais un petit doute commence à s'installer. On sait que ces feux ne sont pas des événements isolés, que ça va se répéter dans les années qui viennent. Réchauffement climatique oblige. Pour l'instant, les préparatifs sont maintenus. mais il y a beaucoup de travail, y compris d'ailleurs en vue de la Coupe du Monde de football 2026, autre énorme manifestation sportive et planétaire prévue à Los Angeles. Est-ce que c'est raisonnable? Les autorités de Californie veulent croire que oui, mais des personnalités d'extrême droite ont déjà appelé à l'annulation de ces JO de Los Angeles.
Vincent Souriau, votre revue de presse à retrouver comme tous les jours sur internet RFI.fr.
RFI Midi.
Et on retrouve maintenant nos confrères de La Première, Benoît Ferrand, aujourd'hui pour parler d'abord de la Guadeloupe et des discussions qui se poursuivent autour d'une éventuelle évolution institutionnelle du département.
Eh oui, la commission ad hoc, autrement dit destinée expressément à un usage précis, a repris hier le cours de ses travaux. Trois groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir notamment à une fusion entre conseil régional et département, comme en Guyane, comme en Martinique, depuis 10 ans maintenant. Écoutez à ce sujet Guy Losbar, le président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Nous sommes sur la même longueur d'onde, mais vous savez que ce sont donc des questions fondamentales qui nécessitent un large débat qui va se poursuivre tout au long de ces différentes réunions de la commission ad hoc. Et ce qui est surtout important, c'est que tout cela puisse aboutir à un congrès avec des résolutions, comme c'était le cas le 12 juin de l'année dernière, et après une consultation populaire, puisque nous tenons à ce que, quelles que soient les décisions que nous pourrons prendre, que cela soit acté et validé par le peuple.
Votre prochaine échéance, quelle sera-t-elle ?
Donc, prochaine réunion de la commission ad hoc, c'est le 27. Mais ce que nous souhaitons, c'est que dès le mois de mars-avril, en tout cas, au cours de ce premier semestre, que nous ayons un congrès conclusif qui va aboutir à la mise en place d'une loi organique de manière à concrétiser toutes les résolutions que nous avons pu prendre lors du dernier congrès.
Guy Losbar, président du conseil départemental de la Guadeloupe. Direction maintenant la Guyane, où l'on joue un peu, et même beaucoup, le monde à l'envers, avec ces orpailleurs clandestins qui n'ont pas hésité à aller porter plainte. Et contre qui, me direz-vous ? Eh bien, contre des gendarmes. Laurent Marot.
Le 9 octobre, des orpailleurs illégaux portent plainte pour extorsion à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Ils dénoncent le vol présumé de leur or quelques jours auparavant par des militaires de l'armée française sur leur chantier clandestin dans un secteur forestier de Saint-Laurent. Information diffusée le 10 janvier par France-Guyane que nous ont confirmé le parquet général et le général Saint-Yves, commandant de la gendarmerie en Guyane. Une enquête a été lancée, confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Le 5 novembre, 9 militaires sont placés en garde à vue à Cayenne. Selon nos informations, ils sont aussi soupçonnés d'être repartis du chantier illégal avec du matériel type tronçonneuse. France Guyane a évoqué une quantité de 3 kilos d'or présumé dérobé aux clandestins. C'est beaucoup moins, nous a indiqué le parquet général. Les forces armées de Guyane ont décliné notre demande d'interview. L'unité en question ne sera pas dévoilée dans un souci de sécurité des opérations, a précisé la communication des FAG.
Affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. De la musique, avant de se quitter, musique brésilienne avec ce morceau Bananera. C'est une chanson de Gilberto Gil, reprise par celui qui avait composé le morceau à l'époque, Jean Donato, en duo avec la chanteuse Luigi Luna.
RFI Midi.
Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, sei lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, sei lá com você. Será no fundo do quintal. Sei lá, bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, e sei lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, e sei lá com você.
Jean Donato avec Luigi Luna, reprise d'un morceau qui avait été composé à l'origine pour Gilberto Gil, Bananera. Merci d'être avec nous sur RFI. Passez une très bonne journée avec Pascal Paradou dans quelques secondes et son émission de Vive Voix. Bananera não sei, bananera será, bananera sei não, uma maneira de ver. Bananera não sei, bananera será, bananera sei não, isso é lá com você. Bananera não sei, bananera será, bananera sei não, uma maneira de ver. Bananera não sei, bananera sei lá, bananera sei não, isso é lá com você.